Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline pour une traversée portée aujourd'hui par des vents chauds en provenance d'Orient. Le 25 septembre 2024, 50 ans après la première adaptation au cinéma par Juste Jacquin du roman Emmanuel, c'est la version d'Audrey Diwan qui est projetée dans les salles obscures. L'occasion pour la réalisatrice de poser un regard nouveau, féminin, sur cette œuvre et sur son héroïne, Emmanuel, de lui redonner son indépendance, d'en faire à nouveau un sujet quand la première adaptation en avait trop souvent fait un objet. Dans la foulée, début octobre 2024, les éditions Archipoche rééditent les deux volets du roman originel paru en 1959 et 1960, Emmanuel, la leçon d'homme, et Emmanuel, l'antivierge, signés tous deux Emmanuel Arsan, avec pour chacun de ces volumes une préface de la philosophe et autrice Camille Moreau. Laquelle Camille Moreau a publié aux éditions La Musardine un livre passionnant que je vous recommande chaudement, Emmanuel Arsan, biographie d'un pseudonyme, qui nous emmène dans les méandres de la conception de ce mythe et nous éclaire sur l'identité réelle de cette plume, Emmanuel Arsan, sur la vie et la personnalité de celle qui se cache derrière ce pseudonyme, sur le contexte dans lequel Emmanuel fut écrit et sur les péripéties de ses publications diverses. Et c'est cette histoire à tiroir que nous allons investiguer, celle d'une femme réellement libre et libertine, telle qu'elle s'est livrée de façon extrêmement explicite dès la fin des années 50, avant de connaître des fortunes diverses.
C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel. Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel, prochainement.
C'était un livre, nous dit la bande-annonce du film Emmanuel de Juste Jacquin, je le prononce à la française puisqu'il est français, en 1974. Un livre qui relate une histoire très proche de la vérité, au fond celle d'une femme qui, à Bangkok, découvrira progressivement, au fil d'expériences et de conversations avec un initiateur éclairé et érudit, moult plaisirs érotiques grâce à nombre d'amis et d'amants. C'était un livre donc, que peu avaient lu en 1959, bien avant la sortie du film, mais qui connaîtra dans sa foulée un énorme succès. Mais après quelques années, Emmanuel se révélera introuvable, épuisé, je parle du livre bien sûr, une disparition à laquelle met fin, je le disais, une nouvelle édition des deux premiers volumes. Dans leur préface, Camille Moreau écrit « Vous qui rencontrez Emmanuel pour la première fois, je vous envie. Je sais le plaisir qui vous attend, l'émoi qui vous prendra » comme lors de toute première rencontre et qui ne pourra plus jamais être réitéré, jamais avec la même intensité du moins. Vous qui, comme moi, la retrouvez après une longue absence, je me réjouis pour vous. On peut revenir à Emmanuel tout au long de sa vie et y dénicher à chaque passage de nouvelles pépites de volupté littéraire comme charnelle. Il y a ceux d'entre vous, peut-être les plus nombreux, qui connaissent Emmanuel, qui l'avaient déjà rencontré, mais ne savaient pas qu'elle était née dans un roman. À cela particulièrement, je ne peux que souhaiter la délicate et troublante joie de découvrir qu'une chose n'est pas telle qu'on se la figurait, écrit Camille Moreau. Pas telle qu'on se la figurait, puisque Emmanuel est une femme libre, seule maîtresse de son destin, différente de l'image qu'on s'en fait généralement, comme Camille Moreau nous le confirme.
Alors le personnage d'Emmanuel est libre parce qu'elle est libre par elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle, le mot qui lui convient le mieux, c'est émancipation. C'est un personnage qui va faire un parcours d'abord intérieur, ensuite extérieur, pour apprendre à apprivoiser sa liberté. Car en fait, la liberté, ce n'est pas seulement de faire ce qu'on veut, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et Emmanuel, elle va chercher autour d'elle, parmi les gens qu'elle connaît, en ayant beaucoup de discussions, des rencontres, ce que c'est que cette idée de liberté et comment la mettre en place dans sa vie. Et elle emmène, ce faisant, les gens autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle commence en étant une jeune femme plutôt timide, qui est encore beaucoup admirative de son mari et qui l'écoute et qui est un peu initiée par son mari. Et on arrive à la fin du roman, à la fin du tome 2, à une femme qui organise elle-même ses plaisirs, qui organise aussi les plaisirs de son mari et qui emmène avec elle tout un tas de personnages, que ce soit homme ou femme, vers une idée de la liberté et vers une liberté acquise, conquise et réelle, vécue dans les faits.
Mais qui, au juste, était Emmanuel et qui se cachait derrière ce qui est en réalité un pseudonyme? En prologue du livre Emmanuel Arsan, biographie d'un pseudonyme, paru aux éditions de la Musardine, Camille Moreau, encore elle, écrit « Emmanuel Arsan n'a jamais existé, cela ne l'a pas empêché d'écrire une vingtaine d'ouvrages, des romans prophétiques, beaux, perspicaces, parfois bêtes aussi, quelques-uns illisibles. » Mais celui qui fit sa fortune et sa gloire, celui-là est un chef-d'œuvre. Tout le monde croit qu'Emmanuel est un roman de Garth Salas, mais non, c'est un traité d'éthique. Si Emmanuel Arsan, l'autrice, n'a jamais existé, Emmanuel, l'héroïne, d'une certaine façon, a bien vécu. Elle s'appelait Marayat Bidit Virajakar, une femme belle, cultivée, brillante, née à Bangkok le 19 janvier 1928, et non 32 comme souvent écrit, dans une famille issue de la haute société du Siam, royaume bientôt rebaptisé Thaïlande. En 1948, alors qu'elle a 20 ans, Marayat rencontre un diplomate français, Louis-Jacques Rollet-Andrian, de 5 ans son aîné, fonctionnaire des Nations Unies pour l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, qu'elle épousera quelques années plus tard. Et c'est elle, sa nature, ses mœurs, sa vie qui va fortement inspirer le personnage du roman Emmanuel. Mais alors, est-ce elle, Marayat, qui l'a écrit? Différentes théories existent à ce sujet. La plus répandue et plausible étant que derrière le pseudonyme d'Emmanuel Arsan se cache en fait le mari de Marayat, Louis-Jacques. Camille Moreau, quant à elle, écrit... Parfois, j'ai lu que Marayat avait commencé à écrire et que Louis-Jacques l'avait aidé à finir. Parfois, j'ai lu que Louis-Jacques n'avait fait que retranscrire ce que Marayat lui racontait à l'oral. Parfois, j'ai lu que Louis-Jacques avait tout inventé. Parfois, j'ai lu que c'est à partir des journaux intimes de la jeune Marayat que le roman a été rédigé. Avant de conclure que tout cela n'a au fond pas beaucoup d'importance et que, qui que soit celui ou celle qui a tenu la plume, on peut partir de l'idée qu'Emmanuel a été d'une façon ou d'une autre écrit à quatre mains. La substance du roman étant encore une fois puisée dans la vie libertine que vivent Marayat et Louis-Jacques, ce qu'éclaire cet extrait de cette biographie d'un pseudonyme. Lors d'un week-end à Pattaya, à leur tout petit village de pêcheurs, Marayat se met en tête de faire du ski nautique entièrement nu. Personne à Bangkok dans les années 1950 n'ose se comporter de manière aussi libre et cette seule idée nourrit tout l'esprit ludique de Marayat. Ainsi, à partir de leur mariage, la vie se passe dans une euphorie tranquille. Il y a l'amour de la belle vie lié à l'argent, c'est une époque d'abondance, les voitures, les œuvres d'art, les divertissements, les voyages, rien ne manque. Le temps, surtout, ne manque pas. C'est un amour qui s'affranchit de tous les codes, de toutes les contraintes, qui ne s'intéresse qu'au plaisir. Marayat aime sincèrement les hommes. Elle tente d'expliquer cela à ses amis. « Plus je fais l'amour, mieux je sais aimer. » Quand il arrive qu'elle s'étonne de l'attitude de Louis-Jacques, qui lui laisse faire tout ce qu'elle veut, elle a aussi de quoi se justifier. « J'ai fait l'amour avec des hommes qui m'ont donné bien plus de plaisir physique que mon mari. Et pourtant, non seulement je n'ai pas envie de le quitter pour aller vivre avec eux, mais je l'aime lui plus qu'avant de les avoir connus. » Ce dernier d'ailleurs, poursuit Camille Moreau, choisit parfois des amants. Pour Marayat, les amantes, elle s'en charge elle-même. Parfois Louis-Jacques est là, parfois pas. Elle prend très au sérieux cette idée, construite avec son mari, que l'érotisme est une œuvre d'art. Emmanuel, le livre, sera rédigé au cours de la seconde moitié des années 50 et Camille Moreau nous en éclaire le contexte.
Alors, il faut savoir que lorsque Emmanuel paraît, lorsque le roman paraît à la fin de l'année 1958, c'est littérairement une véritable révolution parce que les écrits érotiques qui existaient jusque-là et qui mettaient en scène des femmes étaient d'abord très peu nombreux et deuxièmement mettaient en scène une certaine forme de violence et de domination. Quand on pense par exemple à Histoire d'eau, qui est l'autre grand texte de la fin du XXe siècle et qui met en scène une femme, c'est un texte qui propose un récit qui est axé autour de la violence et de la domination. Or, Emmanuel, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire que soudainement, on a un personnage qui veut jouir, mais qui veut le faire dans l'absence totale de violence, dans le dialogue, dans la réflexion aussi sur la jouissance, et qui ne se soumet à aucune norme. Donc soudainement, on a un espèce d'objet littéraire que personne n'avait jamais vu avant, et qui va immédiatement fasciner tout de suite le public.
Une fois écrit à Bangkok, le manuscrit d'Emmanuel sera envoyé à Paris, rue du Cherche-Midi, à un libraire et éditeur spécialisé dans les livres qui ne transigent pas avec la liberté, Eric Losfeld, d'origine franco-belge et né à Moucron, se dit entre parenthèses. Losfeld, qui, dans son autobiographie, titrée « Endetté comme une mule », évoquée ici il y a quelques saisons, note, en 1959, je reçois un manuscrit par la poste, très soigneusement dactylographié, où le ruban bicolore dessinait la lettrine sur un luxueux papier de riz. Bref, un manuscrit que tout éditeur a un plaisir physique à tenir en main. Le paquet venait de Bangkok. La lettre d'accompagnement me disait simplement « Monsieur, j'ai écrit un livre. S'il vous plaît de l'éditer, je passerai à Paris dans le courant du trimestre. » Rien dans cette lettre, signée de manière quasi indéchiffrable, ne pouvait présumer du sexe de l'auteur. Je lis le manuscrit et je le trouve stupéfiant. Un jour du mois de décembre, à la veille des fêtes, écrit l'éditeur Eric Losfeld, il y avait un soleil tout à fait printanier sur Paris et je vois rentrer une femme que, sur le moment, je suppose être une Eurasienne. Elle est en fait de pure race d'ail. Dans l'embrasure de ma porte, le soleil transparaissant au travers de sa robe me présentait une radiographie éblouissante de sa morphologie. Il s'agissait, on l'a deviné, de Marayat, accompagnée de son mari Louis-Jacques, venu découvrir les premiers exemplaires imprimés. Nous décidons de déjeuner ensemble, poursuit Losfeld, et d'aller prendre l'apéritif au Flore. Comme elle l'explique dans le cours du livre, son mari lui interdisait de mettre des soutiens-gorge et lui ordonnait de porter des décolletés. Banal maintenant, mais c'était très audacieux pour l'époque. Nous voilà à la terrasse du Flore. Le nombre de personnes que je connaissais à peine et qui sont venues me serrer la main et s'attarder près de nous en s'inquiétant de ma santé, c'était absolument incroyable. Le livre a eu un impact considérable. J'ai eu, ce qui était très rare pour un livre clandestin, énormément d'articles favorables. Tous disaient « un livre qui ne porte pas de nom d'éditeur ». Alors que c'est moi qui le leur avais adressé à ces critiques en leur précisant de ne surtout pas mentionner mon nom, car à cette date-là, publier un tel roman, c'était la correctionnelle sans bavure. Le deuxième volet d'Emmanuel, l'Antivierge, sera publié l'année suivante, en 1960. Précision, un impact considérable pour un livre clandestin qui sera donc vendu sous manteau, comme on dit, dans sa librairie, à travers son réseau d'abonnés, qui ne porte ni nom d'éditeur, ni nom d'auteur, juste un titre, Emmanuel. Cela signifie 1000 ou 2000 exemplaires vendus, mais c'est déjà beaucoup, encore une fois, pour cette catégorie. Et puis surtout, la carrière d'Emmanuel est loin d'être terminé.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Avant de revenir au roman, Emmanuel, petit détour par la brève carrière cinématographique de Marayat. Car en 1966, grâce aux nombreuses relations culturelles nouées aux côtés de son mari diplomate et, disons-le, de son physique, en plus bien sûr de son caractère et de son potentiel, on proposera à Marayat de jouer dans un film de guerre américain, The Sand Pebbles, la canonnière du Yangtze de Robert Wise, avec Steve McQueen et Richard Attenborough, rien de moins. Elle y incarne certes une prostituée, une femme en détresse, dépendante de l'homme, donc l'inverse du personnage d'Emmanuel, mais tout de même une prostituée cultivée. Lors de la sortie du film en Belgique, elle sera interviewée par le monsieur cinéma de la RTBF, Selim Sasson.
Je vais vous demander maintenant de parler, parce que je ne sais pas dans quelle langue vous parlez, tout ce qu'on fait.
Je parle français.
C'est merveilleux, ça m'arrange très très bien.
Ou anglais, si vous voulez.
Non, je préférerais français, si ça ne vous dérange pas. Mais vous pourriez peut-être expliquer comment il se fait que vous parlez français.
J'ai appris le français en Suisse, parce que j'ai fait mes études là-bas. Et j'ai d'abord commencé par apprendre l'anglais. J'ai quitté mon pays lorsque j'étais bébé. Et l'anglais, au fond, était la première langue que j'ai apprise.
Mm-hmm. Mais c'est maintenant que vous êtes bébé, puisque vous devenez une vedette de cinéma. Hein?
Oui, enfin, oui, bébé dans...
Vous dites, j'ai quitté mon pays, c'était quel pays, ça?
C'était la Thaïlande.
Ah, voilà. Vous avez commencé à me raconter votre vie, on continue?
Si vous voulez.
Bon. Inévitablement, je vais vous demander comment vous êtes arrivé à faire du cinéma. Je sais que c'est pas original, c'est une question que je pose souvent. Enfin, quand même, comment êtes-vous arrivé à faire du cinéma? Vous avez fait des études d'art dramatique?
Pas du tout. Alors, je crois que c'était un peu par accident, si vous voulez, parce que j'ai quelques amis dans le cinéma français. Louis Malle est un ami. Et c'est un peu par ses amis que j'ai rencontré quelqu'un qui a pensé que j'étais une actrice. Et lorsque j'ai dit que je n'étais pas du tout dans le cinéma, elle a dit, mais ne voulez-vous pas faire du cinéma? Et j'ai dit, oh, pourquoi pas? Et on a fait un bout d'essai et je me suis vue sur l'écran pour la première fois. J'étais très thrilled. Et je suis repartie dans mon pays et ne pensais plus que rien n'arriverait de ce petit bout d'essai. Mais quelques mois après, j'ai reçu des télégrammes de New York en me demandant si je voulais bien venir à New York pour faire d'autres essais. Et j'étais très contente de faire ça parce que je n'avais jamais encore été aux États-Unis. J'ai donc pris l'avion et je suis allée à New York. Et là, on m'a dit, on m'a fait répéter des scènes d'une pièce quelconque. Et après, on dit, c'est très bien, vous allez immédiatement en Californie faire des bouts d'essai en couleur.
And Mariotte Andriani is Melee, the haunting beauty of many pleasures. Prize for the highest bidder.
I'll do what you want. You bought me.
I didn't buy you. I don't want it to be like that between us.
Désormais sous contrat avec la Fox, Mariotte tourne quelques mois plus tard, en 1967, dans un épisode d'une série télé en mode western, The Big Valley. Elle y joue le rôle d'une femme battue par l'un des personnages, se confiant dans cet extrait à un autre homme.
He treats you that way all the time?
No, not all the time. Do you have a good doctor here?
Sure do. And banged heads are a specialty. Where are you from?
Moria.
Where's that?
It's an island near Tahiti.
I don't think I've heard of it.
It has a reef, and you can hear the surf pounding on it all over the island. There are butterflies, and the beaches are black, with black sand. There is a mountain in the center of the island, with clouds around it in a circle. It is called La Couronne.
Sounds nice.
Morrissey said it was an emergency. I'm waiting for a baby to be born.
He was slapping the girl around.
He has the right to.
Nobody has that right.
You're wrong. I belong to him.
You mean you're his wife?
No. He bought me. I'm his property.
Il a le droit de me frapper, dit la jeune femme interprétée par Mariotte. Il m'a acheté. Je suis sa propriété. Une fois encore, l'antithèse de la femme incarnée par le personnage Emmanuel. La carrière cinématographique américaine de Mariotte Andriani s'arrêtera là. Heureusement, cette même année, Emmanuel, la vraie, la seule, l'unique, prépare son grand retour, non pas sur grand écran, mais en livre. En octobre 1967, les mœurs ayant évolué, phénomène qui, espère l'éditeur Eric Losfeld, n'a pas échappé aux autorités, ce dernier décide de republier Emmanuel, mais cette fois de façon officielle. Il sera donc signé du prénom de l'héroïne, Emmanuel, complété du pseudonyme Arsan. N'oublions pas que Louis-Jacques Rollet Andriani est diplomate et ne peut pas associer son nom à un roman licencieux. Quant à Mariotte, l'anonymat lui va très bien. Losfeld, dont le nom de sa maison d'édition est désormais visible, envoie dès lors le livre à tous les critiques qui pouvaient être intéressés. Et note-t-il, à ce moment, je m'aperçois d'un phénomène bizarre. C'est que, tant qu'Emmanuel était un livre clandestin et de vente réduite, on criait au chef-d'œuvre. et le chef-d'œuvre s'enlevait à une cadence sans précédent, en tout cas dans cette catégorie. Le livre devenu public, la critique fait la fine bouche, il lui semble beaucoup moins génial que lorsqu'il était clandestin. Il a fallu du temps à Emmanuel pour remonter la pente. Cependant, il y a eu au moins une critique non seulement favorable, mais d'une belle hypocrisie. Elle a été faite par Françoise Giroux, qui commençait par parler des méfaits en général d'une littérature qui lui semblait pernicieuse. Elle continuait en disant en substance « Plus un livre de ce genre est bon, plus il est dangereux. Or, je viens de lire un très bon livre d'une personne que je devine être très cultivée. On y trouve en exergue des phrases de Mallarmé, d'Éluard, de Bataille, d'Artaud. Ce livre est tout à fait bien écrit, sa philosophie est bien sûr à discuter, mais quelle intelligence ! Je ne vous dirai ni quel est l'éditeur, ni quel est l'auteur. Je peux simplement vous dire que le livre est bleu. » Mais 3 mois après sa parution, le roman, à la couverture bleue, sera frappé d'une interdiction de publicité, ce qui n'empêche pas l'éditeur de republier le 2e volet, Emmanuel, l'Antivierge. Au début des années 70, un certain Yves Rousset-Rouart tente, pour ses premiers pas dans la production cinématographique, de faire, je cite, « beaucoup d'argent avec un petit financement ». Son idée, alors que la révolution sexuelle est cette fois en marche, c'est adapter Emmanuel. Il en achète les droits une fois ceux-ci libérés, engage pour l'adapter Jean-Louis Richard, co-scénariste de François Truffaut, et pour le réaliser, un photographe français réputé, dont il apprécie les photos, Juste Jacquin, qui œuvre pour Vogue, Elle, Marie-Claire et le Harper's Bazaar. Et c'est Jacquin qui, lors d'un casting en Hollande, du moins l'affirme-t-il, tombera sur la jeune Hollandaise Sylvia Christel, encore inconnue, un grand échalas blond à la fraîcheur et au naturel séduisant, dira-t-il. Quant au film, il sera tourné en Thaïlande sans grands moyens.
Departure to Bangkok, Air France flight 428, immediate boarding gate number 37. Départ à destination de Bangkok, vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Cœur à corps perdu.
La bande originale, comme cette chanson, est composée par Pierre Bachelet, Gainsbourg initialement sollicité ayant décliné. C'est d'ailleurs le tout premier disque de Bachelet, et s'il en chante le thème, c'est que le budget n'a pas permis d'engager une chanteuse. Le film ne conserve de l'œuvre originale qu'une intrigue mince et des personnages beaucoup plus superficiels que leur modèle de papier, écrit la philosophe et autrice Camille Moreau. Et surtout, elle efface toute la philosophie et la subversion contenues dans Emmanuel. Quant à la journaliste Clélia Cohen, qui parle d'érotisme de pacotille dans le journal Libération, elle ajoute cependant, plus qu'une esthétique, Juste Jacquin réussit à fixer dans Emmanuel une imagerie d'une puissance fantasmatique telle qu'elle perdure encore aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Et d'ajouter, plutôt pudique, Jacquin avait une réticence vis-à-vis des scènes osées qu'il comblait par tout un tas de cache-sexe, voiles, plans serrés, suggestions à l'extrême. Rousset-Rouart se rongeait les sangs en découvrant ces rushs beaucoup trop sages à son goût, mais ce prisme moite et gentillet, qui invite plus à la rêverie érotique qu'il ne révèle quoi que ce soit, a probablement accentué le succès du film. Clélia Cohen lui a d'ailleurs consacré un documentaire titré « Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français », ce qui était en réalité le slogan du film à sa sortie, comme on l'a entendu dans la bande-annonce originale. Un documentaire dans lequel on retrouve, entre quelques quidam d'époque et dans l'ordre, l'historienne Christine Barr, l'actrice et réalisatrice Ovidie, l'experte de mode vintage Pénélope Blancard, la comédienne Sylvia Christel et bien sûr Juste Jacquin.
Le public y va avec des attentes d'émancipation et c'est vraiment un érotisme sucré, lissé. Ça rend le spectacle cinématographique acceptable. Et je me souviens de mes parents, en 1974, allant voir le film avec leurs collègues de travail, en groupe, en couple. C'est le film qu'il faut avoir vu pour être dans le coup.
Est-ce qu'à tout le moins, vous avez appris quelque chose ? Si je puis me permettre. tu peux.
Monsieur, est-ce que je peux vous demander vos impressions à la sortie de cette séance?
Effrayant. C'est un film scandaleux qui n'apporte absolument rien. Absolument rien. C'est abject et ridicule.
Avec le recul, moi, je peux regarder le film et me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces représentations ringardes ?» Il n'empêche qu'à cette époque-là, des femmes qui jouissent à l'écran, cette représentation-là, on ne l'a pas vraiment. Quand on regarde le cinéma français, tout simplement, de cette époque-là, non érotique et non pornographique, les représentations de la jouissance féminine, il n'y en a pas bézef. Donc on peut au moins accorder ça, je crois, à Emmanuel.
Il y a des scènes quand même qui peuvent laisser un peu bouche bée en tant que femme. Sur le côté femme-objet, ou... Ok, c'est vrai, mais en même temps, je trouve qu'à ce moment-là, on sent pas du tout chez Emmanuel une contrainte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit sa sexualité sans tabou.
Verlaine, il a dit ça. Je fais des vers sans avoir l'air. Alors peut-être c'est la même chose avec moi et l'érotisme. Je fais pas exprès.
Emmanuel, c'est en premier le succès, ni de moi, ni de Jean-Louis Richard, ni d'Emmanuel, ni de Cossé, c'est le succès d'être tombé pile à une époque. La libération sexuelle, la pilule, c'est un phénomène de société. Point à la ligne.
Sorti en salle le 16 juin 1974, évitant de peu la censure. Il faut dire qu'on est quand même loin du Gorge profonde américain sorti 2 ans plus tôt et surtout très loin, encore une fois, des phrases très explicites du roman. Emmanuel engrangera en France un succès immédiat et durable, restant même à l'affiche pendant 10 ans dans une salle des Champs-Élysées, sous-titrée en anglais, idéal pour les touristes dont l'écart s'arrête pas loin. Au total, 8 millions de spectateurs en France et longtemps le plus gros succès d'un film français dans le monde. Un succès qui, dès sa sortie en 1974, rebondira sur les 4 livres alors signés Emmanuel Arsan. Les 2 premiers volets, Emmanuel la leçon d'homme et Emmanuel l'antivierge, auxquels se sont ajoutés Nouvelles de l'érosphère et L'hypothèse d'Eros. Comme l'écrit Le Monde en juin 1975, un an plus tard donc, grand gagnant de la librairie française en 1974-1975, le titre qui, avec ses 4 volumes, atteint le 1 million d'exemplaires, c'est Emmanuel d'Emmanuel Arsan dans la collection 10-18. Est-ce que par ce choix, le public s'avoue assoiffé avant tout l'érotisme? Ce n'est pas sûr, le livre n'avait qu'une audience réduite avant la sortie du film, qui bat tous les records d'entrée. Le spectacle a ouvert à 2 battants les portes d'Emmanuel et la foule s'y engouffre, conclut Le Monde. Dépossédés trouvent-ils de leur Emmanuel par le film de Just Jacquin, Louis-Jacques et Marayat tenteront de reprendre le contrôle cinématographique des valeurs que véhiculent leurs personnages en adaptant eux-mêmes leur nouveau roman signé Emmanuel Arsan en 1976. Mais ils seront trahis par le montage du producteur italien. Il y aura la même année 76 l'adaptation fidèle, elle, par Nelly Kaplan d'un autre roman, Néa, mais le film fera un bide abyssal. Peut-être Marayat et Louis-Jacques auraient-ils apprécié enfin l'Emmanuel d'Audrey Diwan, mais la mort est passée par là, en 2005 pour elle, à l'âge de 77 ans, en 2009 pour lui. Quoi qu'il en soit, à l'automne 2024, c'est une nouvelle vision de ce roman qui reprend place sur grand écran, celle d'une femme réalisatrice Audrey Diwan et de sa co-scénariste Rebecca Zlotowski. Ce ne sont pas des images mais des mots qui m'ont donné envie de faire ce film, une discussion quasi philosophique sur l'érotisme qu'il y a dans le livre entre Emmanuel et un homme plus vieux qu'elle, explique la réalisatrice. Il y avait dans leurs échanges un rapport au goût et à l'esthétisme qui m'interpellait. Mais dans cette nouvelle version cinématographique, le principe narratif est renversée, précise la réalisatrice, avec l'idée d'une femme qui n'a plus de plaisir et qui est en quête d'elle-même. Une Emmanuelle incarnée par Noémie Merlant, que l'on suit non plus à Bangkok, mais à Hong Kong.
Do you get pleasure?
Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire.
depends who's behind the door, I guess.
Do you get pleasure?
Why wouldn't I?
What can you tell me about him?
You should get out.
Let yourself go.
I'm afraid.
A delicious feeling.
And what's your name?
Emmanuel. Notre voyage porté par les vents chauds d'Emmanuel se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à l'étoiler et à le partager. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
We're on the air. Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.